que je dois faire aujourd'hui, c'est vous présenter la vision du ministère entourant tous les changements actuels en première ligne. On a eu beaucoup d'attention médiatique, donc vous en avez sûrement un peu entendu parler, sinon beaucoup, si c'est la question qui vous intéresse. Puis, je vais vous inviter à garder en question de fond deux éléments. Donc, au-delà des changements actuels, premièrement, comment on s'assure de vérifier que ce qu'on tente d'implanter a des résultats probants ou a les bons résultats? Et d'autre part, à partir de là, où on doit aller par la suite. Donc, c'est un petit peu la trame de fond, vu que je m'adresse bien sûr à des chercheurs, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est du contexte, il y a en trame de fond les données récurrentes sur la difficulté d'accès à des services de médecine de famille, notamment à un médecin de famille. Donc, c'est quelque chose qui revient. Encore là, les dernières données qui ont été publiées, ce sont des données qui sont issues d'une obligation du ministère à partir du projet de loi 20, donc de publier de manière trimestrielle. Des données concernant l'inscription à un médecin de famille, le taux d'assiduité que je vais vous expliquer tantôt si vous ne connaissez pas ça, la fréquentation des urgences par des priorités 4 et 5 que je vais également expliciter si vous n'êtes pas familier. Donc, les dernières données qui datent d'à peu près un mois montrent qu'il y a certains endroits, il y a certains centres intégrés, là, territoires de centres intégrés, où l'inscription est aussi faible que 55 % de la population seulement. Et parfois aussi haute que 87 %. Donc, bon, on a une marge de manœuvre ici qu'il faudrait peut-être venir faire du rattrapage dans certains endroits. Le taux d'assiduité, donc qui mesure la facilité à voir son médecin de famille. Juste une petite note, moi j'entends beaucoup d'écho. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Oui.
Oui, hein? Qu'est-ce que je dois faire?
En fait, votre micro devrait être de l'autre côté parce qu'il capte plus votre épaule que
vous.
Oui, bien le micro. Juste mettre le micro de.
Oui, c'est parce que la discipline. Excusez-moi.
Je ne voulais pas vous interrompre.
Non, c'est correct. C'était un petit peu agaçant pour moi, fait que j'imagine que ça l'était pour vous aussi. Alors, je continue. Le taux d'assiduité, en plus, ça me donne une pause parce qu'il est difficile à expliquer. C'est la manière de calculer si on est capable de voir un médecin de famille auquel on est inscrit. Grosso modo, on prend le nombre de visites auprès de notre médecin, donc Dr X, je l'ai vu deux fois dans l'année, et on le divise par le nombre de consultations en première ligne, plus à l'urgence pour une priorité 4 ou 5 dans l'année. Donc, ça inclut les visites auprès du médecin. Donc, si j'ai vu mon médecin deux fois, en plus, j'ai vu un autre médecin deux fois et que j'ai été à l'urgence pour, une otite une autre fois dans l'année. On divise 2 par 5 et ça donne un taux d'assiduité assez catastrophique dans ce cas-ci, là. Mais ça nous donne une idée de à quel point je suis capable de voir mon médecin à moi. Et le taux d'assiduité aux dernières données était entre 66 % dans certains endroits et aussi élevé que 85 % dans d'autres endroits. Ce qu'on s'attend du point de vue de la littérature, c'est que 8 fois sur 10, au besoin, donc 4 fois sur 5 ou 80 % des fois, on puisse voir notre propre médecin et que c'est normal qu'il y ait un 20 % où le médecin ne travaillant pas toutes les heures de la vie, là, on aille ailleurs. Et en ce qui a trait à la fréquentation des urgences pour des cas de priorité 4 et 5, donc ce sont des cas où normalement on devrait pouvoir être pris en charge en première ligne et non pas à l'urgence. C'est aussi élevé dans certaines urgences du Québec que 90 %, ce qui est quand même assez préoccupant. Donc ça, ce sont des données que vous pouvez trouver sur le site du ministère dans Statistiques et qui sont mises à jour une fois ou trois mois, si ça vous intéresse. Issu de ce bilan-là, il y a eu le dépôt du projet de loi 20, sur lequel je ne reviendrai pas en détail. Il a suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, vous en avez probablement entendu parler. Et finalement, ce qu'il a fait de mieux, c'est de réinitialiser, si on veut, la discussion entre le ministère, le gouvernement et la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Et il y a eu la signature de l'entente MSSS-FMOQ, qui avait pour objectif que les deux parties travaillent ensemble à améliorer l'accès en première ligne. En fait, ça, c'est le grand but. Les objectifs sont au nombre de 4. Je ne les ai pas là-dessus, mais bon, je pourrais vous les détailler. Et vous pouvez trouver cette entente-là sur Google. Avoir son médecin de famille et y avoir accès en temps opportun, donc l'inscription, le taux d'assiduité. Avoir accès à un médecin de famille en temps opportun, donc si on ne peut pas voir le nôtre, mais qu'on a besoin d'une consultation, qu'on puisse avoir accès à un médecin de famille. Promouvoir et encourager le travail sur les milieux de dispensation de soins médicaux en première ligne et soutenir et favoriser l'interprofessionnalisme, ce qui n'est quand même pas mineur dans une entente FMOQ-MSSS. Autre contexte, Le cadre de gestion des groupes de médecine de famille, que je ne sais pas combien vous en savez là-dessus, le groupe de médecins de famille étant donc un groupe de cliniciens qui travaillent ensemble et s'engagent à travailler, selon l'ancienne version, avec une infirmière pour offrir bon, des soins à leurs patients et ont un certain nombre d'obligations. Il était en vigueur depuis 2003 et depuis en 2013, nous y travaillions pour qu'on puisse faire une version mise à jour et on va en parler tout de suite après. Donc, ça a résulté en l'adoption du programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de famille, qui a été mis en vigueur depuis novembre 2015. Et à partir de l'ancien cadre, dans ce nouveau programme-là, on a voulu clarifier et expliciter les obligations des groupes. On a voulu s'assurer que le financement suit le patient. Donc, avant, lorsque c'était une mise en œuvre un petit peu au besoin, c'était peut-être un peu moins clair. Maintenant, on a un niveau de GMF selon le nombre d'inscrits. Ça part à 6000. Si on a 6000 inscriptions en tant que groupe, on a un niveau 1 et ça va par strate de 3000 par la suite, jusqu'à 30 000 qui est le niveau 9. Ça vous donne une idée. Donc, le financement en argent suit le patient et le soutien professionnel également suit le patient. L'offre de service proportionnelle au nombre d'inscrits également, donc le nombre d'heures d'ouverture de la clinique, et un suivi annuel du respect des obligations et des conséquences immédiates s'il y a un non-respect, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on s'assure d'être un petit peu baqué. Et là, en ce qui a trait du soutien professionnel, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, peut-être dans la question... dans la question des maladies chroniques. Et sans vouloir contredire Angelo qui disait hier, il parlait hier de la mesure Hébert, en fait, ce soutien professionnel-là, ce qu'on a fait avec le nouveau programme, contrairement à l'ancienne version avec Dr. Hébert, bon, l'ancienne version, c'est qu'on ciblait des GMF qui étaient soi-disant performants, donc qui atteignaient certains critères, et on leur octroyait des professionnels. Dans le nouveau programme, tous les GMF ont accès à cette mesure-là. Donc, c'est vraiment rendu partout. On parle d'infirmières cliniciennes et de travailleurs sociaux qui ne sont pas permutables, c'est obligatoirement ces deux-là, et d'une catégorie autre professionnelle qui est au choix conjoint du MSS, du GMF avec le centre intégré, selon les besoins de la clientèle qui est inscrite dans ce GMF-là et selon les besoins du territoire également. Donc, l'ensemble des services qui vont se faire sur le territoire, on souhaite les compléter. Et enfin, on offre même un financement pour la conclusion d'une entente pour services pharmaceutiques. Donc, lorsque le GMF conclut une entente pour qu'un pharmacien vienne travailler avec lui, vienne travailler avec ses patients, il y a un financement qui est offert directement au GMF. Au ministère, on a quand même un souhait de promouvoir le reflet pour les personnes qui sont dans les équipes de soins et également permettre une amélioration continue de la qualité. Donc, on a quelques projets de pratiques réflexives à cet effet-là. Et je vous parle de nos trois grands projets, COMPAS, REFLET et le ROSPI, dont on va savoir ce que veulent dire ces lettres tantôt. COMPAS.
Peut-être changer la diapo.
Certainement. COMPAS, REFLET, ROSPI, merci. Améliorer les pratiques. Et COMPAS. Donc, COMPAS consiste en l'offre d'ateliers réflexifs. Basé sur un thème. Présentement, on a diabète et MPOC. Oui, on a Marie-Pascale Paumé qui est parmi nous et qui est la coordonnatrice du projet COMPAS à l'INES depuis un an à peu près, quelque chose comme ça. Donc, Marie-Pascale saura aussi bien répondre à vos questions que moi. Donc, on met en place des ateliers réflexifs par RLS, par thème. On a dit diabète et MPOC qui sont présentement existants. Et on réunit dans ces ateliers-là des professionnels de la santé, des décideurs et des patients, tout nouvellement des patients. Ce qu'on leur présente, ce sont des données sur l'état de santé de la population qui est atteinte de la maladie. Donc, si c'est MPOC, bon, qu'est-ce qu'ils ont comme état de santé, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils consomment comme soins et services? On leur présente également les meilleures pratiques, ainsi que des notions d'amélioration continue de la qualité, d'interprofessionnalisme et de responsabilité populationnelle. Bon, je fais un gros switch de tout ça parce que j'ai peu de temps, mais on pourra répondre à vos questions au besoin. Et l'objectif de ces ateliers-là, donc au bout de la journée, ce qu'ils doivent faire, c'est à partir de toutes ces informations-là, des données sur leur territoire, identifier des pistes d'action pour améliorer les trajectoires. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif dans la RLS, basé sur des données populationnelles. Voilà pour COMPAS. REFLET maintenant. C'est également des notions de donner une image à des cliniciens, mais au lieu d'être à un niveau populationnel comme COMPA, on est ici dans les dossiers médicaux électroniques. Donc, ça peut être le clinicien avec ses propres patients ou ça peut être dans une clinique, donc le dossier médical électronique de l'ensemble de la clinique. Ce qu'on fait, c'est qu'on génère des rapports et requêtes sur demande et on peut analyser à partir de ça les patients de ce médecin-là ou les patients de cette clinique-là. Est-ce que je vous empêche de voir? On génère, dans le fond, des rapports et des requêtes et ça permet d'avoir une image de ce qui se passe pour la prise en charge de ces patients-là, qu'est-ce que ça donne comme résultat clinique pour eux, etc. Ce qui serait intéressant, après avoir entendu un petit peu hier et parlé avec, j'essaie de me souvenir qui exactement, je ne la replace pas pour l'instant, mais quelqu'un qui parlait d'un projet où est-ce que les professionnels viennent saisir dans le dossier médical électronique lui-même. Ah oui, c'était vous. Nathalie. Merci, Nathalie Almeras. Merci. Donc, c'est un projet, si je comprends bien, pilote qui se passe à Québec.
En réalité, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place.
OK, je ne veux pas rien scouper. Je ne veux rien scouper.
On travaille avec un des organismes qui est OmniMed.
OK.
Avoir une ouverture que le kinésiologue qui voit les patients qui se sont peut-être prescrits à l'activité physique pour pouvoir donner un rétrofeedback vers l'équipe de médecine.
OK. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous étiez prête à faire des annonces, là, mais c'est quelque chose qui serait super intéressant puis avec lequel, pour l'instant, on a un petit peu de problématique pour que les professionnels qui sont délocalisés d'un établissement dans un GMF saisissent à partir du DME directement et non plus dans ICLSC. C'est des choses qu'il faut mettre au point. Sauf que l'intérêt ici, c'est de venir avoir non pas juste une extraction de l'action que pose le médecin ou l'infirmière pour le patient, mais également ces professionnels cliniques-là. Donc, quand on parle des critères que vous avez nommés hier, M. Després. Donc, ça peut être intéressant de voir l'action du kinésiologue au niveau de la condition cardio-métabolique, au niveau du niveau d'activité physique, l'évaluation de la qualité nutritionnelle par la nutritionniste, etc. Et de pouvoir donc faire un reflet de ces données-là pour le patient directement à partir du DMI en complément de ce qui se passe avec les autres professionnels. Ça, c'est quelque chose à regarder, n'est-ce pas? Le prochain est le ROSPI, qui en fait veut dire rapport de l'organisation des services d'une patientèle inscrite. Patientèle voulant dire les patients, mais la clientèle, bon, on a introduit patientèle. Oui. Semblerait que ça existe, mais toutes les personnes qui l'entendent semblent un peu étonnées. Oui, mais c'est pas la dernière. Bon, alors le ROSPI. Là, on est vraiment avec un médecin qui génère un rapport pour son offre de service versus la demande de ses patients à lui. On est beaucoup plus dans l'administratif et pas du tout dans le clinique. Grosso modo, c'est pour que ce médecin-là puisse ajuster son offre versus la demande de ses patients. Donc, il va voir de son côté, lui, le nombre de jours en moyenne qu'il travaille, le nombre d'heures qu'il met en première ligne, quel type de patients il voit. Est-ce que ce sont ses patients, les patients d'un autre médecin, des patients non inscrits, etc. Le profil de ses patients, donc, dans le fond, est-ce que ce sont des vulnérables? Est-ce que leur consultation également, est-ce qu'ils consultent surtout lui? Est-ce qu'ils consultent ailleurs, la clinique voisine, parce qu'ils sont plus disponibles ou à l'urgence? Donc, c'est vraiment pour que ce médecin-là puisse s'ajuster au niveau de son offre de service. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est généré par le médecin lui-même, autant de fois qu'il veut, et que les dernières données montrent que plus de 50% des médecins de famille l'utilisent sur une base régulière. Donc, pour une bébelle relativement récente, c'était des données encourageantes, des chiffres encourageants. Si on passe aux nouveautés dans le dossier des maladies chroniques, voilà. Je vous tiens au courant de deux choses, dans le fond. En 2014, il y a eu un appel d'offres pour des projets de trajectoire de services dans le réseau qui, dans le fond, des services intégrés pour les patients atteints de maladies chroniques. On avait le souhait de financer un grand nombre de projets. Finalement, comme ça a été fait en contexte de coupure, nous avons financé 3 projets. Nous sommes donc au bout pas mal de l'année 2. Les 3 projets sont en Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Laval. Et la prochaine étape qu'on a mentionnée à ces équipes-là, c'est que s'il y a une récurrence de financement, ce sera pour reproduire leurs projets dans d'autres régions. Donc, je vous le mentionne pour que si vous souhaitez faire des approches entre vous, vous savez qui ils sont. Le deuxième point dont je souhaite vous parler, c'est, si vous vous souvenez, du cadre de référence pour la prévention et gestion des maladies chroniques physiques en première ligne qui a été publié par le ministère en 2012. Nous en avons fait un bilan en 2015 pour identifier, bon, là où ça a bien avancé, les endroits où est-ce qu'on a encore besoin de mettre beaucoup d'énergie Il en est ressorti 7 constats et 12 pistes d'action. Malheureusement, ça n'a pas encore été publié, donc je ne vous donne pas l'entièreté du contenu qui a été là. Ça a été présenté dans les CGR, là, au PDG, PDGA des CCCIUS, mais pas encore de manière globale. Par contre, je vous ai ressorti de ces 12 actions-là qui ont été inscrites, les thèmes de recherche qu'on souhaitait peut-être voir avancer. Donc, il y avait l'interdisciplinarité, bien entendu, ou l'interprofessionnalisme que j'aurais dû écrire. La question des grands, grands consommateurs. Oh, pardon. C'est comme la diapo. La question des grands consommateurs, des pistes, mais ce n'est pas ça le bon mot, mais vous comprenez là où je veux m'en aller. Comment on les identifie, merci. Comment on les évalue, comment on les prend en charge. Qu'est-ce qu'on fait avec ces grands consommateurs-là? Bien sûr, la question de l'autogestion et du patient partenaire, mais je vais laisser les experts en parler. La littératie médicale, on en a parlé un peu hier, peut-être pas dans ces mots-là, mais vraiment que le patient qui, dans le fond, on souhaite qu'il soit partenaire, en sache un petit peu plus sur sa condition, oui, mais qu'il en sache un petit peu plus sur le système de santé, qu'il sache où aller, aux besoins. Et des pratiques réflexives, comme on a pu en parler tantôt. Et mes grands messages pour terminer. Donc, on est dans un moment de grande évolution et de grands changements en première ligne. On s'est basé sur les meilleures pratiques, au meilleur de ce qu'on a pu faire. On s'est basé sur les données probantes. Par contre, l'impact dans le contexte québécois, on a besoin de le connaître. C'est une invitation. Pour ce qui est de la recherche, on veut vous partager la nécessité d'intégrer l'approche SRAP, que sûrement vous connaissez, et que Mme Manon Saint-Pierre, ma collègue du ministère, pourra vous en toucher un mot également. Là. SRAP, grosso modo, là, je ne sais pas si je dois l'expliciter, est-ce que vous connaissez ça? Oui, OK, c'est bon, fait que je passe. Puis, donc, l'approche SRAP pour nous, c'est un projet majeur depuis quelques années et tous les projets de recherche qui sont présentés, on souhaite qu'ils soient arrimés avec cette approche-là. Et on vous rappelle qu'il y a un soutien opérationnel, un unité soutien, lorsque vous vous engagez dans cette approche-là. Enfin, de nous parler de ce qui découle de vos recherches, mais au fur et à mesure, puis d'être bien entendu ouvert à ce qu'on ait une approche constructiviste, itérative, pour ajuster le tir aux besoins d'une part et de l'autre. C'est également une invitation.